pourra s'en passer, camarade. Bientôt.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
La rétrospective de l'actualité de la semaine, actualité agitée par la réforme de l'orthographe sur 2400 mots. Alors évidemment, parler d'orthographe des mots à la radio, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, apparemment, ça ne passe pas qu'on transforme le PH de nénuphar avec un F et que l'accent circonflexe sur le U de sûr rende du coup un peu moins sûr le sens de la phrase qu'on écrirait avec le mot sûr, justement. Bref, il y a eu des sujets bien plus prégnants, même si le langage est un sujet important, puisque c'est avec ces outils qu'on façonne notre pensée. En appauvrissant le langage, on appauvrit les outils qui donnent la capacité de penser. Et la capacité d'acheter, ou tout simplement de vivre, la piste de la dégressivité des allocations chômage revient sur la table. Le gouvernement socialiste n'écarte pas cette possibilité de faire baisser progressivement au fil des mois l'assurance chômage des chômeurs, comptant ainsi sans doute les pousser à reprendre plus rapidement du travail. Ça fonctionnait ainsi déjà il y a quelques dizaines d'années. À propos d'argent, sachez qu'on a appris cette semaine qu'il faudrait que chaque habitant de la planète paye 75€ pour acheter Google. Google est devenue la plus riche entreprise du monde, en bourse en tout cas, dépassant Apple avec 543,2 milliards de dollars. Pour eux, en revanche, l'argent, ils en voient de moins en moins, ce sont les agriculteurs. Leurs coûts de production ne sont plus couverts par les prix d'achat de la viande et du lait par les industriels et la grande distribution. Alors ils ont remontré les muscles cette semaine, les agriculteurs, et c'est pas fini. Pas fini aussi les rumeurs de remaniement ministériel à un an de l'élection présidentielle. Nicolas Hulot a refusé cette semaine un super ministère de l'écologie. Il se dit que l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault pourrait revenir au Quai d'Orsay. Et puis il y a des ministres qui, eux, ne bougeront pas, ça c'est sûr, le très populaire ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ou le ministre de l'Économie Emmanuel Macron. Un motif d'inquiétude cette semaine, le virus Zika. Il touche tout le monde, mais il peut poser sérieusement problème aux femmes enceintes suspectées de provoquer des malformations du fœtus. Ce virus est en pleine explosion selon l'OMS en Amérique latine, mais il a déjà posé le pied en Europe et en France, sous les tropiques, avec déjà plusieurs femmes enceintes touchées en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Enfin, bien sûr, cette semaine, on a parlé de l'état d'urgence, l'examen des lois constitutionnelles qui vont réformer la Constitution permettant de rendre ordinaire les principaux instruments de l'état d'urgence jusqu'alors extraordinaire. Eh bien, c'est en débat, ça y est, l'état d'urgence qui sera prolongé jusqu'à, justement, l'adoption de cette loi constitutionnelle qui, de toute façon, permettra de faire appliquer l'état d'urgence d'une autre façon. Ce climat post-attentat est de moins en moins fraternel. On a eu en début de semaine une boucherie halal en Corse qui a été mitraillée à l'arme lourde en centre-ville. La Corse avait déjà connu des tensions entre Noël et le Nouvel An après l'agression de pompiers dans le quartier sensible d'Ajaccio comptant une importante population d'origine maghrébine. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Passez un excellent week-end.
La météo de votre région sur RVE.
Dans quelques instants, on retrouve le sport sur RVE avec Philippe Carnus. La météo, on la retrouve tout de suite. Voilà, ciel nuageux, ciel pluvieux. On aura quand même de belles éclaircies aujourd'hui, hein, rassurez-vous, mais quand même quelques averses et des températures de 8 à 9 degrés maximum. Ça va baisser en fin d'après-midi.
RVE. Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est pas Tribune Sport ce matin, hein, ça sera Tribune Foot, premier dimanche de chaque mois. Tribune Sport, ça reviendra la semaine prochaine, donc fidèle à la tradition, on va commenter toute l'actu foot hein, de ce mois de janvier, avec quelques titulaires hein, qui manquent ce dimanche. Notre ami Bibi Moreau n'est pas là, par exemple. Oui, il n'a pas encore récupéré la défaite des Verts contre le Paris Saint-Germain. Olivier, lui, s'apprête à prendre l'avion pour Marseille ce soir, hein, où il assistera à Marseille-Paris Saint-Germain. Et puis notre ami Francis, il est parti du côté de Venise. Venise en amoureux, passer un petit week-end. Mais on a un invité qui vient de Bretagne spécialement. C'est notre ami Raymond Mélero. Raymond, bonjour. Est journaliste à Ouest France. Il est venu donc nous parler d'abord du match donc auquel on a assisté Mantes-Nantes. Hein. On en reparlera tout à l'heure dans le chapitre Coupe de France, mais aussi et avant tout du foot breton.
Oui.
Bonjour Raymond.
Alors merci Philippe de considérer que le foot breton a une importance sur le territoire français.
Trois clubs en Ligue 1 quand même, puis un quatrième en Ligue 2 quand même.
Oui.
Ça représente bien le football français.
Oui, alors trois clubs bretons, on va pas réveiller les susceptibilités d'Anne de Bretagne, mais il faut rappeler que le FC Nantes quand même était rattaché aussi au foot breton.
Alors ça fait quatre, alors moi je vais pas rentrer en polémique. Hein. Voilà. Donc effectivement.
Donc c'est un bon vecteur du football professionnel et qui est très alimenté aussi par le football francilien dans sa formation avec beaucoup de jeunes issus de la région parisienne qui vont intégrer les centres de formation et leurs premiers contrats. Il y a des exemples très récents d'ailleurs sur des joueurs qui sont même en équipe de France Espoir maintenant, qui ont démarré à Journée 1 à Drancy, Marcus Coco là, qui est un joueur de Guingamp. Et il est arrivé à Guingamp pour son premier contrat. Là, il vient de le signer. Il est titulaire en équipe de France Espoir. Et voilà, il y a eu avant Yann Mvila.
On va en parler. Hein. On va revenir sur le parcours de Mantes. Hein,
les Bretons sont très friands de football en général. Et c'est le sport majeur, évidemment, en Bretagne aussi.
Très bien. Donc, on a bien fait d'inviter notre ami Raymond pour nous parler du foot breton dans cette émission du début février. Il est là avec nous aussi tous les dimanches. Hein. Il n'arrête pas depuis une semaine de fêter la victoire d'une reine portugaise comme reine du Muguet qu'on
Katia,
a reçu la semaine dernière à ce micro. C'est notre ami José, le plus portugais des supporters du Paris Saint-Germain. Ça va, José ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Une semaine de fête depuis
ça va très bien.
L'élection de la reine du Muguet. Hein,
Katia l'a gagné, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Et elle parle bien. Oui, elle était chez vous. Dimanche dernier, et c'est vrai qu'elle est charmante et elle va bien représenter la ville de Rambouillet pendant cette année 2016.
Très bien, il nous a donné le bon vainqueur du prix d'Amérique la semaine dernière, c'est Bob Eagle, c'est notre ami donc Boris. Ça va Boris?
Oui, ça va Philippe, j'étais pas le seul à le donner.
Oui, d'accord. on va revenir un tout petit peu sur sa victoire assez nette et assez écrasante au cours de ce 95e prix d'Amérique. Il est là avec nous aussi, c'est notre ami Edouard. Salut Edouard, ça va?
Bonjour.
Le Paris Saint-Germain va bien?
Oui, ça va.
Et puis pas trop fébrile avant le Marseille-PSG de ce soir?
Oh non, c'est un match comme tout autre.
Hein. Oui, c'est vrai que cette année, c'est pas le match de l'année. On en reparlera aussi. Ouais. Et puis, je salue aussi Juliette qui est là.
Hein. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, ça va, toujours.
Voilà, donc on va commenter cette actu foot, je l'ai dit, championnat, 25e journée, Marseille-Paris-Saint-Germain, est-ce encore le match de l'année? On reviendra aussi sur la Coupe de la Ligue et sur la Coupe de France. Boris, juste un petit mot sur la victoire de Bob Eagle. Rarement on a vu un cheval s'imposer aussi largement et aussi nettement.
Oui, ce qui est impressionnant. Ce qui est impressionnant, au-delà du fait qu'il a emporté de bout en bout, c'est plutôt par rapport à son âge. Mm-hmm. C'est qu'un cheval à 5 ans, il est entre deux âges, c'est un adolescent, on va dire. Donc il a Franck Nivard s'est évertué à le mettre devant tout le monde. Ils sont partis sur un tempo très élevé et il a repris à mi-course et on s'est aperçu que dans le dernier virage il était au petit trot. C'est-à-dire quand on dit au petit trot, c'est que le jockey
il a regardé tout le monde,
se met en arrière de son sulky pour soulager, je dirais, le cheval. Et puis globalement il n'y a pas eu de course. Alors le spectacle, on va dire, de la course en elle-même, il a été moyen. Par contre, pour ceux qui aiment les courses, c'est exceptionnel.
Oui,
moi, j'ai rarement vu, à part son papa, les talons Ready Cash, qui lors de la première épreuve remportée au Prix d'Amérique s'était baladé. Mais j'ai rarement vu à 5 ans un cheval avoir autant de facilité. Tenez-vous bien, en 25 ou 26 courses, il en aura porté 22. De mémoire de turfiste et de pronostiqueur, j'ai le souvenir de Ténor de Beaune, qui avait gagné 30 victoires avant de remporter le Prix d'Amérique. Et après qu'on a pu vu. Donc, faut se méfier parce que les courses, c'est comme le foot. C'est comme ces sports de compétition professionnels. Et il faut ménager sa monture. Mais alors là, franchement, de mémoire de turfiste et de pronostiqueur, j'ai rarement vu une balade aussi probante dans un championnat du monde. Parce qu'il faut dire que le Prix d'Amérique, c'est la finale du championnat du monde des trotteurs.
Ouais, c'était le 95e Prix d'Amérique et il a battu le record. Hein, 3 minutes 12 secondes, 65.
Alors là, pour le coup, je me suis fait bluffer parce que quand dimanche on a fait l'émission, vu le temps qu'il faisait, le terrain était très gras, il pleuvait. Et j'avais annoncé que Bob Eagle allait gagner, mais combattrait vraisemblablement pas le record. Je me suis trompé, ça veut dire que...
C'est la belle incertitude du sport, oui, c'est ça qui est fabuleux.
Oui, oui, mais ça veut dire aussi que par un temps, on va dire normal, non boueux, il aurait explosé le record. Donc, c'est encore plus performant. Mais c'est extraordinaire ce qu'il arrive à son propriétaire, qui est un riche propriétaire suisse en association, qui est quelqu'un qui a une vingtaine de McDonald's, mais qui à l'origine, avait rêvé de ça, petit, comme certains. Et puis, quand on est petit, on n'imagine pas un jour qu'on deviendrait riche. On a des rêves, et puis un jour, on travaille, et puis ça arrive. Et il a pu s'offrir Bald Eagle, qui tout petit avait des bonnes origines, mais c'est pas parce qu'on a des bonnes origines qu'on va forcément faire un crack.
Oui.
Et là, c'était vraiment exceptionnel. Donc, 450 000 euros gagnant. Donc, il doit passer son quota Bald Eagle à peu près 2 millions d'euros, et à 5 ans, ça veut dire qu'il pourra... Oui. Envisager
d'autres encore dans les années.
Bah, je pense qu'en tout cas, s'ils arrivent, la difficulté démarre maintenant, j'ai envie de dire. S'ils arrivent à l'amener, parce que ces chevaux-là ne peuvent plus que courir que les groupes, que les grands prix. S'ils arrivent à tenir sur les 3 années à venir la cadence, il y aura pas beaucoup de chevaux pour le battre. Voilà, mais c'est un champion français d'une origine française avec Ready Cash.
Oui, qui avait gagné en 2012, papa.
Alors, je crois qu'il en a gagné deux de suite, ouais, si je dis pas de bêtises.
Il avait gagné, c'est Marja qui a gagné en 2014.
C'est ça. Et toujours Franck Nivard au Sulky, qui pour le coup, avec sa 4e victoire au Prix d'Amérique, je crois passe devant ou égalise les performances de Jean-Michel Bazir. Donc exceptionnel. Franck Nivard d'ailleurs, qu'on avait interviewé, lors d'une victoire au Grand Prix d'RVE.
Absolument. Tire un coup de chapeau aussi à Timoko, qui finit encore dans le...
Tout à fait.
Et qui dépasse allègrement les 3 millions d'euros.
Exactement.
Qui est un cheval, qui est un champion, il a une graine de champion quand même.
Il va jamais gagner.
Mais Timoko a gagné 12 groupes 1, mon cher Doudou. Ça veut dire 12 groupes 1, c'est le record du monde.
Il n'a pas 3 millions de gains pour...
C'est le record du monde.
C'est pas les petites courses qu'il a fait, c'est les courses de champion.
C'est ça. Et Timoko est plus spécial dès 2100 que dès 2700.
Course de vitesse, oui.
Mais il aurait pu gagner.
Très bien. Eh ben, on continuera par les courses. Ça sera dès le mois d'avril, je l'ai dit, puisque il y aura donc la rentrée des courses à l'hippodrome d'Ambouillet et on aura les jours de course de l'hippodrome. Eh bien, des pronostics comme depuis quelques années. Allez, aujourd'hui, c'est aussi le ballon rond. 25e journée du championnat de France. OM Paris Saint-Germain. Est-ce que ça reste encore, messieurs, le match de l'année, Raymond?
Bah, c'est un classico.
Cette année, Marseille quand même dans le ventre mou. Hein.
Oui, mais Laurent Blanc a d'autres exigences que Marseille-PSG aujourd'hui. Je pense que s'il avait un choix à faire ce soir, ça serait de minimiser le nombre de cartons et de blessés, évidemment. Les compétitions européennes, c'est l'enjeu majeur du club. Aujourd'hui, ils ont fait une première partie de championnat exceptionnelle. La deuxième partie est partie sur le même rythme. Ils vont être champions probablement à la fin du mois.
24 points en 24 journées, ça veut dire que ça fait un point par journée.
Ça veut dire que clairement, il y a 38 journées de championnat, ils pourraient terminer avec 38 points d'avance.
Ouais, ça serait quand même. Voilà, ils ont battu le record de Nantes. Hein, 33 matchs, 30 victoires et 3 nuls. Donc ils sont invaincus, c'est assez phénoménal. Mmh. Et même quand ils sont un peu poussés dans la difficulté, ils arrivent toujours à trouver de par leurs individus.
Mais ces matchs-là ont un aspect assez particulier parce que si on se rappelle par le passé, tu avais OM qui était largement devant et il recevait Paris, par exemple, et Paris a fait la sensation en allant gagner avec une équipe qui n'était pas une équipe de haut tableau de championnat. Ils ont été gagnés. Donc c'est des matchs à enjeu. C'est un peu comme les matchs de coupe. Il y a un enjeu majeur. C'est le club qui gagne, qui a la notoriété sur la saison, voilà. Donc j'espère que Paris va gagner. Moi,
je pense que
de Paris aussi.
Ça fait un moment que, de toute façon, Marseille n'a plus battu le Paris Saint-Germain, que ce soit au Parc des Princes ou même au stade de Vélodrome. Et puis c'est vrai que cette année, je pense que malheureusement il y a une classe d'écart. Même si on sait que Marseille peut se transcender dans ce genre de match, on l'a vu à l'aller où les Marseillais ont quand même un peu bousculé le Paris Saint-Germain, hein, victoire de Buzyn.
Absolument.
Oui. Donc, Juliette.
Oui, je dirais que
le PSG va trembler.
Pas du tout. Je dirais que tous les clubs viennent pour bousculer Paris. Hein. On a 19 clubs qui veulent bousculer Paris, qui veulent gagner Paris. Et puis voilà. Bon, ça, moi je dis c'est un match comme les autres. Et puis voilà.
Non mais il y a eu des années où c'était le premier contre le deuxième.
Oui, mais c'était un petit peu.
Cette année c'est le premier contre le contre
là,
le septième.
Les journalistes faisaient monter les enchères.
Oui, c'est plus les PSG Marseille de.
Oui, mais heureusement.
L'année dernière c'était important. L'année dernière c'était un bon match.
Il y a moins de
victoire de Paris à.
Il y a moins de ferveur autour du match.
Oui,
que
mais
du
on n'a pas besoin de ferveur. On joue les 19 clubs de la même façon, on les gagne tous, et puis voilà.
Juliette, elle est confiante.
Ouais. On se rappelle qu'au match aller, Marseille a fait un bon match. Ils ont bousculé PSG,
tout à fait.
Libra,
mais
qui permet à Paris avec
viennent,
peut-être un peu plus de maturité.
Mais ils viennent
de gagner,
à Paris pour bousculer Paris. Il ouais. n'y a pas que Marseille.
Mais
tous,
ce soir,
c'est la
je
même
pense
chose.
Que Marseille va quand même essayer de titiller un petit peu
ah ben
Paris.
Bien sûr, la seule chose que je
sont sur leur pelouse,
la seule chose que
laisser,
je souhaite, c'est que Paris ne soit pas blessé, parce qu'alors là, bon, on a
non, mais il y a quelque chose, je suis pas d'accord, de dire que les équipes viennent pour gagner Paris.
Bah quand même, on veut battre le champion.
Non. Ils viennent pour faire leur jeu comme ils ont l'habitude de faire.
Pas tout le
ah,
monde.
Si.
Il y a quand même un petit plus, je pense.
Il y a
une petite motivation supplémentaire
quand
c'est contre Paris.
Uniquement pour gagner Paris.
Bon, alors on va demander à notre ami Raymond, quand les Bretons jouent donc le Paris Saint-Germain, dans quel état d'esprit sont-ils, que ce soit Guingamp, que ce soit Rennes, que ce soit Nantes, ou même donc Lorient, qu'on a vu récemment au Parc des Princes, est-ce qu'ils viennent et que c'est un match particulier?
Alors, pour eux, c'est un match particulier. Hein. De toute façon, ayant discuté à plusieurs reprises avec Jocelyn Gourvennec, qui est l'entraîneur donc de l'EAG Guingamp, ils viennent surtout pour pas prendre une valise déjà
au
départ.
C'est pour ça qu'ils jouent derrière beaucoup d'équipes, voilà. Parce qu'ils savent que quand ils prennent des valises, elles prennent des buts. Voilà. Ça termine par 5
ou 4 ans. Essayent d'imposer à un moment donné dans les duels et sur des aspects techniques. Des phases de jeu assez concrètes tout au long du match qui veulent essayer de redynamiser mais ils sont conscients que la différence est même plus énorme, c'est monstrueux. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il y a 8 équipes en Europe comme ça, devraient jouer dans un championnat où il y a ces 8 équipes regroupées, parce que globalement il y a 2 championnats de France aujourd'hui.
C'est vrai.
Vous avez le deuxième qui est plus près de la relégation que de la première place.
Il y a très peu d'écart entre les
voilà
entre
donc
les
le paradoxe aujourd'hui c'est de dire il faudrait réussir au moins à briser la sérénité du club parisien. Et en plus, quand ça va, tout va bien. Ils ont en plus la chance avec eux, Paris. Hein. Donc, quand ça va moins bien sur le jeu,
c'est
ils ont
champion,
des faits de jeu qui arrivent
été la
à être en leur
champion,
faveur.
Ça a toujours été la réussite du champion. Lyon l'a eu en son temps, Marseille l'a eu aussi en son temps. Bon, l'erreur d'arbitrage qui permet à Paris de battre Lyon 2-1. En d'autres temps, Lyon l'a eu aussi, Marseille l'a eu. Donc, ça fait partie du parcours du champion. Boris. Est-ce que c'est un match un peu particulier ou alors aujourd'hui, bon allez, c'est plus classique, c'est plus banal, Marseille est dans le ventre mou du championnat, ça représente plus un épouvantail.
Oui, Marseille.
Surtout que Marseille perd à domicile, joue moins bien.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est une histoire de pression aussi. Hein. Faut pouvoir y jouer au Stade Vélodrome et en plus ils ont une équipe quand même de. C'est un peu comme l'équipe de rugby de la France hier, c'est-à-dire qu'il y a pas. On a des bons joueurs, mais on n'a pas de. De joueurs extraordinaires. Marseille aujourd'hui, à part Mandanda. Ce que je veux dire, à part Mandanda, à Marseille, qui est le super joueur? Alors qu'à Paris, si on les prend intrinsèquement individuellement, il y a personne pour lutter. Après, ça reste un classico. Moi, je vois Paris invaincu toute la saison en championnat. Je vois pas pourquoi ce soir.
Ça va être le défi parisien.
Au pire, il y aura un match nul, mais je pense que le challenge aujourd'hui, pas Paris. C'est dans 10 jours, je crois que c'est dans 10 jours.
Chelsea,
c'est
contre Chelsea.
Donc c'est Chelsea. Chelsea se refait un peu la cerise. Donc mais sur le jeu, honnêtement, je veux pas leur porter la poisse, mais même par rapport à Chelsea, si les deux équipes jouent à leur valeur, Paris passera. Alors ça va pas. C'est pas Reims, hein, Chelsea. Mais a priori, sur leur valeur, il faut pas déjouer. Hein, c'est la problématique. Aujourd'hui, Paris a de l'expérience, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Ils ont joué les matchs qu'il fallait contre Madrid, contre Chelsea.
Ils ont été battus quand même.
Non, mais je veux dire, je parle pas de cette année.
Ah, oui.
Je parle des années précédentes.
Ouais, deux fois par Barça, puis une fois par Chelsea.
Je pense qu'aujourd'hui, ils ont la capacité d'être en demi ou voire en finale. Après, le gagner, ça reste. Barcelone me paraît quand même très largement au-dessus de tout le monde.
Une question que je pose souvent, est-ce que c'est un avantage de survoler aussi largement le championnat de France? Est-ce que c'est pas un désavantage?
Ouais, mais les années précédentes, on se posait la question contraire. Est-ce que le fait que le deuxième soit à 3 points va pas pénaliser Paris qui doit jouer jusqu'au dernier bout? Je pense qu'aujourd'hui Paris a 2 effectifs, a les moyens quand même ce soir d'avoir une équipe compétitive sans pour autant mettre sur le terrain les joueurs majeurs qui vont les qualifier dans 10 jours. Donc Donc, à mon avis, oui, c'est plus un avantage qu'un inconvénient.
Mais Laurent Blanc a annoncé qu'il aurait son équipe type. Hein. Il va pas.
Ah, mais il va rien lâcher.
Hein. Oui, c'est sûr. Il va jouer sur les quatre tableaux, de toute façon, comme l'année dernière. Il va jouer sur les quatre.
Et puis, depuis trois ans, les joueurs se connaissent aussi. Ouais, hein. Ils arrivent même.
Et puis, ils ont une meilleure gestion des matchs.
Il ne faut pas mettre une autre équipe.
Non.
Non, de toute façon,
c'est pas bon.
Et c'est à ce moment-là que tu risques de te blesser quand tu mets.
Et voilà.
Mais ce soir, tu as Paris qui joue avec 30 points d'avance sur. Même plus de 30 points sur Marseille.
Oui, c'est incroyable.
Et Marseille, qui est à 5 points de la relégation.
Oui.
Et pourtant, Marseille est dans la première partie du tableau.
C'est ça
l'énorme différence ce soir. C'est que la sérénité, quoi qu'il en soit, elle sera toujours du côté de Paris.
Bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent prendre un but, ça ne les traumatisera pas. Ils ont vraiment l'effectif pour aller chercher le résultat. Et en plus, ils ont vraiment des vainqueurs dans leur équipe. Quoi. Mmh. Globalement, ils ont vraiment des vainqueurs.
Ouais. Bah, on le voit dans certains matchs de coupe, où parfois Paris est un peu malmené, bousculé, et puis finalement, ils s'en sortent toujours favorablement. Parce qu'il y a ce collectif, et puis il y a aussi ces individualités. On l'a vu contre Toulouse, on l'a vu contre Lyon, on l'a vu. Donc,
et puis, faut aussi tirer un coup de chapeau à Laurent Blanc, parce qu'au début, on disait quand même, est-ce qu'il allait être capable de gérer une telle équipe avec autant de stars et
il
autant d'égos.
Il sort même Ibra, ce n'est pas toujours évident, mais il sort Ibra.
Et bien, on peut lui tirer un grand coup de chapeau aujourd'hui, parce qu'il gère bien son effectif, et puis je pense qu'il est respecté par ses joueurs, et ça, c'est vachement important dans une équipe.
Bon, la Vézi s'en va apparemment. C'est tombé pratiquement chez nos confrères.
C'est un fantôme aujourd'hui, la Vézi.
Il a marqué l'autre
jour. Mais quand il rentre, il fait le travail.
C'est vrai.
Et puis ça l'arrange, il veut jouer comme ça.
Oui, il veut partir en Chine pour 500 000 euros par mois.
Quand on lui demande de rentrer, il rentre, il joue, il marque un but.
Il fait jamais la gueule.
La Vézi, ce qui est triste, je trouve, chez la Vézi, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu 50% de son niveau. C'est l'ombre de la Vézi.
Mais bon. Mais il joue plus trop.
La seule crainte à avoir avec le départ de Lavezzi, c'est que c'est quand même le joueur qui a fait venir à Paris Di Maria. Il a quand même un impact sur le groupe et c'est ce qu'on appelle les leaders de vestiaire. Il faut que Laurent Blanc arrive rapidement, si c'était le cas, si officiellement il partait en Chine, qui a l'air d'être le nouvel Eldorado pour les footballeurs.
Ouais, pour les fins de carrière. Quoique Waro, c'était pas le cas.
Donc, la seule inquiétude, c'est de gérer le vestiaire après. Mais Lavezzi était un bon joueur. Bon, il n'a pas souvent eu du temps de jeu cette saison. Mais il a fait venir Di Maria et Di Maria s'entend très bien avec lui. Donc, faut voir comment la suite va se faire, surtout au sein du club. Après, c'est l'esprit du PSG. Aujourd'hui, les uns se remplacent. On voit comment ça s'est passé pour Sirigu avec Trapp. Il n'y a pas eu de sentiment. Titulaire, c'est Trapp et tu passes à la Trapp, c'est le cas de dire.
Donc,
aujourd'hui, il faut voir comment Laurent Blanc va gérer le vestiaire.
Alors, pour le reste donc, du championnat, pour les autres équipes, on l'a dit, c'est un championnat complètement fou. Les résultats d'un jour ne sont pas forcément ceux du lendemain, excepté trois qui semblent condamnés. Pour le reste, tout est possible. Comment vous trouvez ce championnat d'une façon générale? Raymond, qui va beaucoup voir les matchs sur la Bretagne, c'est un championnat assez moyen quand même, très moyen.
À part, comme on est en train de le dire, PSG qui domine un petit peu.
Quand même,
noter quand même la progression de Lyon. Ils ont été gagnés 3-0. Bon, c'est aussi, pas encore le Lyon d'il y a une dizaine d'années. Ils ont quand même été gagnés 3-0
à Angers. Un jour, c'est moins bon.
Mais c'est vrai.
C'est assez irrégulier.
C'est quand même assez irrégulier. Puis, par rapport à d'autres championnats comme en Espagne ou en Angleterre, c'est quand même assez moyen. C'est moyen du fait que y a que Paris domine tout quoi.
C'est vrai que que ce soit même Saint-Étienne, ça va bien, ça va moins bien. Enfin bon bref, on a quand même un championnat où on l'a dit, c'est très serré. On imagine des clubs comme Angers, Caen, peut-être Nice, peut-être en Ligue des Champions.
Ou en Ligue 2.
Peut-être pas Nice ou.
Non, mais quand Angers, enfin, c'est. Aujourd'hui, j'ai grand respect pour ces équipes-là, parce qu'avec les moyens qu'ils ont.
Mais c'est Montpellier, Toulouse, Reims.
Mais aujourd'hui, on peut imaginer Angers, rendez-vous contre, en Coupe d'Europe. Moi, je peux les imaginer, j'ai pas peur de le dire, de Caen ou Angers, ou Reims en Ligue 2.
Reims, quand Angers, il faudrait une catastrophe maintenant.
Mais malheureusement, on verra que l'année prochaine, souvent, l'équipe promue fait une saison exceptionnelle.
On l'a vu à Cofer il y a quelques années,
Et c'est pas ce que je souhaite, mais.
Et après,
Mais quand on regarde le jeu, C'est à peine supérieur au niveau de la Ligue 2.
Il y a un exemple, une équipe moyenne en Angleterre, Leicester, qui est en tête du championnat aujourd'hui.
Et l'entraîneur, attention.
Oui.
On parle d'un mec qui a ramené Monaco à la deuxième place du championnat et qu'on a viré comme un malpropre.
C'est vrai, c'est vrai.
Oui, on l'a viré comme un malpropre. Et puis aujourd'hui,
ils ont été gagnés à Manchester City hier 3-1 ou 3-0. C'est quand même.
Raymond, le niveau des matchs quand on va en Bretagne suivre des matchs de Ligue 1, Ligue 2. Alors, on avait parlé à Mantes, Raymond, ouais. Il y a une équipe, c'est Brest, il ne faut pas l'avoir joué. Mais sinon, pour le reste.
C'est en Ligue 2, là.
On est en Ligue 2.
Le niveau général, le niveau des stades est agréable parce que les stades sont tout le temps pleins. C'est vrai aussi.
Que ce soit au Roudourou, à Rennes ou à Lorient.
Voilà, à Lorient, pas en Ligue 2.
Non.
Mais
à Brest, non.
Voilà. Pour revenir sur la Ligue 1, vous disiez tout à l'heure, il faut savoir que tous les entraîneurs disent à leurs joueurs, il nous faut 42 points pour le maintien en début de saison. Mmh. Aujourd'hui, si vous regardez le championnat, il y a beaucoup d'équipes à 36 points, 35, 34. Donc ils savent, alors qu'il reste 13 matchs journée, à peu près, ils savent qu'il leur reste, allez, on va dire 7-8 points.
La difficulté
aujourd'hui du championnat de France et de la motivation des coachs, ça va être de dire, vous êtes arrivé à 42 points, mais vous n'avez plus rien à gagner. Vous n'avez plus rien à perdre ni à gagner. Donc c'est ça que je regrette moi aujourd'hui sur le championnat de France, c'est que plus personne va se battre sur le haut du tableau, c'est qu'on va se battre pour le ventre mou du championnat.
Ouais, c'est frileux. Et donc, c'est frileux quoi. Voilà, à l'image des matchs.
Voilà, exactement. Et là, je voudrais pas être à la place de Roland Courbis parce que notre ami Roland Courbis.
Tu vas le rencontrer.
37e journée, c'est peut-être lui qui va condamner Montpellier. Si Montpellier était dans le wagon pour la descente, parce qu'il joue à Rennes, Rennes joue à Montpellier et Rennes risque de jouer le haut du championnat, la place qualificative pour la Ligue Europa. Et lui, Roland, si Montpellier est pas mieux que maintenant, risque de condamner définitivement Montpellier.
C'est quand même, je comprends ce que tu dis, mais c'est quand même terrible de parler de Rennes qui va jouer l'Europa. Enfin, aujourd'hui, on parle de Rennes, on peut parler de 10 ou 15 équipes comme ça.
Ils n'ont pas le niveau. Quoi.
Mais Rennes n'a rien démontré. Depuis
5 ans. Rennes gagne à l'extérieur, perd à domicile. Ça fait combien d'années que ça dure? Et combien d'équipes comme ça?
Ils ont perdu les deux finales.
On a l'impression que les saisons se suivent et se ressemblent quoi, quelque part.
Bon, pour revenir au foot breton, si ça vous passionne, le foot breton, alors il y a des moments où évidemment il est comme tout le football en France, il a des moments où ça va un peu moins bien au niveau des résultats, mais là il sait toujours se ressaisir. Alors moi je reprendrai cette maxime des Bretons qui dit toujours que c'est face à la tempête qu'on connaît les vieux marins et les bons marins. Ouais. Et en fait les Bretons ont besoin perpétuellement de se remettre en question. Donc lorsqu'ils sont 18e ou 19e du championnat, pratiquement pour un coach c'est la position idéale pour que la vérité de son groupe se fasse. On a vu Guingamp qui était 19e au moment de la trêve, là aujourd'hui ils enchaînent 4 matchs de suite avec des victoires et pourtant moi qui vois très régulièrement jouer Guingamp, ils ont un effectif moyen et tout se fait
inférieur à l'an dernier
et tout se fait sur l'état d'esprit quoi. Clairement c'est des équipes qui jouent sur l'état d'esprit, ils ont un peu de talent. Mais c'est des équipes très jeunes généralement, avec quelques titulaires, 2-3 titulaires qui ont de la bouteille, entre guillemets. Mais sinon, tout le reste, c'est des jeunes qui sont lancés dans le championnat de France. Et hélas, ce sont des clubs qui peuvent pas garder leur vraie valeur. Parce que généralement, à l'intersaison, ils sont pillés par des clubs bien plus riches que les clubs bretons. Quoi.
Allez, on envoie la page de pub et après on repart. C'est promis, je reste sur les terrains de foot. On y va.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. Au cœur de la vallée de Chevreuse, les Salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les Salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h, un buffet dînatoire à volonté. Boissons et soirées nightclub incluses à 45 euros. Le dimanche à partir de 11h, un brunch avec après-midi dansant et animation pour enfants à 39 euros, enfants 15 euros. Et un thé dansant de 15h à 18h avec son buffet gourmand à 15 euros. Les Salons Léopold, la vallée à Cernay-la-Ville. Réservation et information au 01 34 85 20 02 et sur www.salonsleopold.fr.
Bah, Peinture et Bébati Service. Entreprise située à Vieille-Église, interviennent dans toute l'Île-de-France et proposent différents services pour tous vos travaux d'intérieur et d'extérieur. Nature Service, spécialiste de vos espaces verts avec ses équipes de paysagistes et élagueurs diplômés. Bébati Service, entreprise tout corps d'État répondra à tous vos travaux de bâtiment. 50% de déduction d'impôts possible sur de nombreuses prestations. Un conseil, un devis gratuit. Contactez Nature et Bébati Service au 01 30 50 06 96 ou sur le www.natureservice.fr.
La CIM Verte et la Gage à Vieille-Église vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin? La CIM Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La CIM Verte, votre professionnel de l'élagage. Ferme de la Quaqueterie à Vieille-Église, proche de Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimverte.com.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, j'ai quelques annonces à vous faire. D'abord, vous dire que samedi prochain, à la mairie de Versailles, c'est la grande soirée des éclats olympiques. Donc, entre 19h30 et 22h30, hein, ça sera donc la 11e édition. Et il y aura tous les lauréats, tous les sportifs, tous les éducateurs, tous les dirigeants qui ont donc porté haut le sport en 2015, qui seront donc récompensés. Il y aura probablement des gens du foot à cette occasion. Et puis, le Variété Club de France reviendra dans notre région le dimanche 27 mars. Ça sera le dimanche de Pâques. Le Variété jouera donc à Saint-Arnoult en Yvelines pour 15h. Alors Paris Saint-Germain va jouer visiblement donc toutes les compétitions. Une nouvelle fois, Juliette, PSG Lille, ça sera la finale de Coupe de la Ligue.
De la Ligue, oui. Oui. Oui.
Donc Paris va jouer cette finale. On sait que bon, il y a eu quelques difficultés. Ils ont battu Lyon de 2-1 avec bon une petite erreur d'arbitrage. Et après la victoire contre Toulouse 2-0 où Di Maria était le seul éclair du match.
Tout à fait, tout à fait. Bon, mais de toutes les manières, la Coupe de la Ligue, bon, c'est déjà classé, c'est déjà placé parce que ce sera la finale.
Oui.
Là maintenant, il faut
Paris
c'est Lyon
favori, hein.
Mercredi, je crois. Quand
c'est Lyon pour la Coupe de France cette fois-ci. C'est le retrouvaille en Coupe de
voilà.
France.
Voilà. Et puis bon après. Le championnat, bon, c'est acquis, je pense. Mm-hmm. Hein, je vois pas.
Vu l'avance qu'il y a,
on ne sait jamais, on ne sait jamais.
Oui. Et puis
bon, la Champions League, bon, quelque
monde,
part, là, il faut quand même qu'on marque le coup par rapport à Chelsea. Mm-hmm. Et je pense que Paris fera le travail.
Bon, on en reparlera le mois prochain, puisque Chelsea, hein, c'est dans le courant du mois de février. Juste simplement en Coupe de la Ligue, bravo à Lille aussi qui a fait le spectacle, qui a battu Bordeaux 5-1. C'est un match beaucoup plus intéressant quand même que ce qu'on avait vu entre le PSG et Toulouse. Hein.
Ouais, c'est bien, mais intrinsèquement, il y a des bons joueurs. Hein,
oui,
en France,
Alors c'est vrai qu'ils sortaient d'une semaine difficile. Hein, ils avaient été battus par Trélissac en Coupe de France. Ils avaient été battus en championnat à domicile par 3. Il fallait se révolter. Ils ont fait la révolte, mais je ne sais pas si vous avez vu le match, mais c'était un superbe match.
Oui,
de
puis
foot.
Ils peuvent sauver leur saison. Ça reste une finale. Donc, faut pas. Voilà, autant Paris a gagné le championnat, mais. Une finale, ça reste une finale. Et puis, à une époque, je me souviens que la bête noire de Paris, c'était quand même Lille.
Il y a beaucoup de bêtes noires. Hein.
Oui, mais il y en a plus. Il me semble qu'il y a une dizaine d'années. Sur la valeur des équipes, c'est lunaire. Quoi.
Alors, ça sera la quatrième finale pour Antonetti en tant qu'entraîneur.
Il en a gagné combien, tu sais?
Aucune pour l'instant. Il a perdu avec Bastia, avec Rennes, en Coupe de la Ligue, malheureusement. Avec Nice aussi, il a perdu. Voilà, ça sera sa quatrième finale.
Jamais 203, il n'a pas gagné.
Mais comme quoi l'histoire se répète et souvent un format d'entraîneur ramène l'équipe dans les coupes et autres. Et puis finalement, c'est un peu, il y a un peu eu le même scénario Antonetti dans les clubs où il est passé de Bastia à Rennes. Ça s'est toujours bien passé la première année. Et puis, un peu comme à l'image de beaucoup de clubs quoi, en fait. Hein.
Bon, la Coupe de France, donc Paris, il sera aussi contre Lyon. Ça sera le match vedette de ces huitièmes de finale qui arrive mercredi. Alors justement, la Coupe de France, on va en parler, Raymond, parce qu'on a eu l'occasion de suivre le parcours de Mantes. Hein, c'est quand même le représentant du club yvinois. Mantes a été battu 1-0 après prolongation. Un but de l'américain Bedoya à la 105e minute, c'est-à-dire à la fin de la première prolongation. Mantes n'a pas démérité, il n'a pas manqué grand-chose. Peut-être que l'équipe, comme le disait Robert Mandy, on a assisté à la conférence de presse, peut-être que si l'équipe avait pu être un peu plus offensive, le coup était jouable. Est-ce qu'elle n'est pas restée un peu trop prudente?
Alors, ce match, en clair, il y a eu plusieurs conditions qu'on comptait dans ce match. Ouais. Hein. Entre autres, les conditions atmosphériques.
C'était pas un énorme match techniquement. Voilà. C'était pas
et vous aviez un terrain complètement gelé, donc il y avait très peu d'appui. Donc, techniquement, c'était pas facile. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le bloc de Mantes est très athlétique.
Oui, ça, ils ont
face
fait un
à
bon
une
match.
Ligue 1, ils n'ont pas eu du tout de problème au niveau athlétique. Au niveau de l'animation du jeu, curieusement, effectivement, Nantes n'a pas été très supérieur.
Ils ont joué petit bras.
Voilà. On n'a pas eu l'impression qu'ils voulaient tuer le match, clairement.
Même s'ils ont tiré quand même deux fois sur les poteaux.
Et en parallèle de ça, moi j'avais vu le 32e contre Saint-Brieuc.
Oui. 2-0 pour Mantes.
2-0 pour Mantes. Et là, Saint-Brieuc avait par contre pris le match en main. Et Mantes avait marqué sur deux contres, qui avaient été fatales à Saint-Brieuc. Mais là, sur le match de Nantes, c'est un match de coupe. Et comme tous les matchs de coupe, là, on arrive, Bedoya rentre dans la seconde.
Il y a une petite faute d'inattention, un petit relâchement de la défense.
Ça décale toute la défense. Il rentre sur une tête qui est déviée. Il est face au but, il marque. Et bon, les Mantais ont, je pense, un énorme regret, c'est qu'à la fin du match,
oui, c'est la meilleure occasion, hein, c'est voilà, la double occasion, voilà, tire sur la barre, et après sauver sur la ligne.
Voilà, donc, sauver a priori sur la ligne. Ouais, mais maintenant, il y a des avis divergents, mais voilà, on aurait terminé au penalty, quoi. Oui, clairement, ils auraient mérité de terminer au penalty, même après, c'est un enjeu, c'est une loterie le penalty, hein, les cas. C'est mais ils ont un excellent gardien, donc ils pouvaient aussi prétendre à la qualification.
Oui, il était très bon, Gueye.
Voilà. Mais en tout cas, on n'a jamais rencontré de différence de 4 divisions sur ce match de Mantes. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Philippe.
Oui, absolument d'accord. Hein. Je crois que simplement, comme on dira en matière de sport, Nantes a assuré l'essentiel. Oui. Bon, il y avait un petit peu plus d'expérience, un peu plus de maturité à ce niveau de la compétition. Et c'est simplement ce qui a fait la différence. Hein. Oui. C'est vrai que, bon, Bedoya, il marque, l'équipe se relâche. Mantes a eu auparavant un centre de Préra qui a eu personne aussi à la réception. C'est les deux seules belles occasions. Mais c'est vrai que Nantes n'a pas survolé les débats.
Le regret de Robert Mandy, hein, c'est de dire qu'on n'a pas été, on s'est pas suffisamment projeté vers l'avant.
Ils se sont pas lâchés en première mi-temps.
Mais naturellement, une équipe de Ligue 1 laisse pas l'adversaire se projeter vers l'avant.
Bien sûr.
Et elle anime le jeu toujours dans sa zone des 40 mètres pour éviter justement que les équipes viennent se projeter vers l'avant. Voilà.
Mais bon, c'est bien, hein. Mantes a fait un beau parcours, c'est une, bon, c'est une date qui va rester.
6000 spectateurs.
Ouais, en plus, on a battu des records. Ouais. Ça peut être bénéfique pour le football dans la région, ça va drainer tout un football yvelinois.
Évidemment. Alors, ça anime non seulement le football, mais ça aiguise aussi l'appétit des recruteurs.
Ça risque aussi, hein, d'avoir l'équipe être décimée l'année prochaine.
Donc il faudra que Mémante est une équipe qui agit beaucoup sur la formation. Hein. Ils l'ont prouvé par le passé.
Alors justement, Raymond, on va quand même dire qu'il y a des joueurs très connus qui sortent de Mantes. Il y a Moussasso, qui a été le meilleur buteur du championnat dans le doublé de Lille en 2011, championnat Coupe de France. Il y a Mvila, qui, même si bon, on entend un peu moins parler, sort de Mantes. Et puis on a eu Diagne qui est sorti aussi de Mantes.
D'accord.
Donc c'est un club très formateur. Hein.
Oui, très formateur. Et là, bon, ils viennent de recruter un pro, là, Kosoko, qui vient les renforcer jusqu'au mois de juin. Il était en rupture de contrat professionnel, donc il vient les renforcer. Il est également Mantais, hein, à l'origine, il est Mantais. C'est le genre d'équipe qui mérite d'être en CFA, qui mériterait d'être en national, mais qui sera constamment pillé parce qu'ils n'ont pas les moyens d'une Ligue 1 ou d'une Ligue 2. Quoi.
Alors d'autant plus qu'à Mantes, il y avait quelques problèmes, hein, parce que je crois qu'on leur a coupé les subventions. Hein. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le domaine politique. Il y a une mairie, Front National, il faut dire, hein, et qui n'est pas très favorable à poursuivre son investissement avec le club de foot. C'est quand même assez incroyable. Quoi. Quel reflet de la ville, quoi.
Oui, quel reflet de la ville. Et on dirait que l'histoire, aujourd'hui, fait un pied de nez à la mairie de Mantes-la-Ville, parce que c'est la première fois dans l'histoire de Mantes en général, hein, parce que par le passé, il faut rappeler qu'il y avait l'AS Mantes et le CA Mantes.
Oui, qu'on fusionnait en FC Mantes en 78.
Et dans l'histoire.
Mantes qui était à l'époque en deuxième division, il y a très longtemps, dans les années 60, Théon 72, hein, apparemment.
Oui, mais en 77 aussi, je me rappelle aussi.
Chapeau.
C'est dommage que le tirage n'ait pas facilité Mantes pour rencontrer Paris, parce que
après Saint-Brieuc, c'est ce que tout le monde voulait.
Mais je pense qu'ils auraient fait le double de supporters. Ensuite, comme Paris est très généreux et laisse toujours sa part au club qu'il rencontre, je pense que c'était quelque chose qu'il fallait.
Alors, les subventions de Mantes, pour en parler pas très longtemps, parce qu'en fait, maintenant, je pense que le club de Mantes va réussir à se sauver, peut-être grâce à la Coupe de France, entre autres.
Oui.
Et maintient ses objectifs en championnat.
Et puis les retombées télé aussi, avec Eurosport qui était là. Hein.
Voilà, il y avait quand même beaucoup de médias qui étaient présents. Et aujourd'hui, Mantes a réussi à ressurgir avec le Conseil Général qui a redonné la partie de subvention que la mairie leur avait supprimée. C'est un investissement à court terme, vu que maintenant on sait que Mantes va avoir des retombées financières sur la Coupe de France qui sont assez importantes. Néanmoins, il faut savoir que la Coupe de France a un coût au niveau de la sécurité qui est très important pour les clubs. Il y a un exemple récent avec Raoul Etape. Raoul Etape a été loin en Coupe de France, mais a un énorme problème de budget parce qu'il a fallu qu'il paye une société de sécurité pour l'organisation, etc. 22 000 euros. Donc c'est quand même pas des sommes minimum pour un match de coupe. Hein. Donc, mais Mantes, je pense, sincèrement, avec 987 licenciés, devraient s'en sortir et ils peuvent compter sur, au niveau sportif, sur la formation. Parce que ça, c'est sûr, ils ont des équipes dans toutes les catégories. Et alors, des talents, de nombreux talents.
Oui, alors ça va être facile maintenant de se relancer dans le championnat. Bon, Mantes est en milieu de tableau actuellement. Hein, et paradoxalement, ils jouent dans le groupe de Calais et Quevilly, qui sont les deux clubs amateurs qui sont parvenus en finale de Coupe de France. Bon, hier, ils ont battu Aubervilliers 1-0 dans un de leurs matchs en retard. Oui. C'est facile de se replonger comme ça dans le quotidien quand on a vécu l'ivresse de la Coupe.
Alors, c'est tout le rôle de l'entraîneur, ça. Parce que c'est très grisant d'être dans les médias, dans la pression du public, hein, parce qu'au quotidien, c'est des Mantais, hein, tous. Hein. Mm-hmm. Donc, ils avaient au quotidien la pression. Donc, c'est l'entraîneur qui doit remobiliser ses troupes. Alors, je dirais presque par chance, ils ont eu deux matchs reportés les uns après les autres.
Involontairement.
Donc maintenant, ils ont faim. Ils ont envie de rejouer. Là.
Oui.
Donc hier, ils l'ont prouvé et ils ont gagné 1-0. Donc ils vont sûrement jouer les premiers rôles en CFA. Mm-hmm. Et je pense que leur objectif reste de toute façon la montée en nationale.
Oui, on va saluer Sidou Kaldi, hein, un des agents de Mantes, hein, qui devait être là ce matin, qui a commenté le match avec nous chez nos amis de BPM, hein, où on a battu des records d'audience. Donc on va le saluer avec Mamadou Keita et toute l'équipe, en espérant qu'elle ne soit pas trop décimée ensuite par les recrutements, de façon à pouvoir prolonger ce bel élan la saison prochaine.
Ah bah, de toute façon, pour eux, c'est sûr que les recruteurs étaient présents et le sont encore. On sait très bien qu'il y a trois joueurs là qui sont ciblés par des clubs professionnels. Donc forcément que si des contrats pro, et je pense que le président de Mantes est intelligent et entraîneur aussi, si des contrats pro arrivaient, naturellement il laisserait partir le joueur parce que c'est son avenir personnel et ils ont surtout pas le choix. Quoi.
Bah, Raymond, il y avait un beau cas, c'était le cas de l'arrière droit mantais, Quatten. Il était mantais au mois de décembre, c'est nantais au mois de janvier et il a joué contre son ancienne équipe. 18 ans arrière droit.
Oui.
Il est signé à Nantes, passé pro.
Oui, il vient de signer son premier contrat pro à Nantes. De toute façon, des Mantais qui ont signé, il y en a à Rennes aussi, pour parler des Bretons. Vous avez des jeunes Mantais qui sont actuellement dans les équipes de Rennes. Alors, il est maître dans les U19 actuellement. Ils sont stagiaires, mais ils leur proposeront, quoi qu'il en soit, un premier contrat pro. Donc, ça fait quand même une pépinière, le club de Mantes, assez importante et un exemple pour la région surtout.
Oui, c'est vraiment.
Mais on voit que les Mureaux essayent d'aller sur la même démarche. On voit que Poissy essaye d'aller sur la même démarche. Ouais, ça veut dire que c'est un vecteur d'intégration important, le club de Mantes.
Juliette, il faut y aller à Mantes, hein, voir les matchs.
Oui, il faut aller il faut y aller aussi. Mais j'étais un petit peu avec les petits-enfants, je pouvais pas les passer.
Mais c'était une belle soirée.
Oui,
sympa.
Oui. Mais je dirais, pourquoi le ministre des Sports n'aide pas, au point de vue sécurité, ces clubs-là? Parce que, leur demander de verser 22 000 euros pour assurer la sécurité, ce serait plus à l'État, au ministre des Sports, à aider ces clubs quand ils arrivent à ce niveau-là.
C'est parce que tout simplement, la convention est faite avec la 3F, et la 3F a sa commission Coupe de France, qui, elle, laisse l'organisation à la charge des clubs, et en contrepartie, ils ont un pourcentage de la recette. Si vous voulez, c'est un échange de bons procédés, sauf qu'il faut être très bon gestionnaire, parce qu'il faut avoir un seuil, on va dire, avec 6000 spectateurs, probablement qu'ils ont largement assuré le coût de la sécurité supplémentaire. Mais par exemple, Ramon L'Étape, il n'y avait sûrement pas le seuil à 6000, et ça leur a fait une difficulté supplémentaire dans l'exploitation de la Coupe de France. Donc il faut faire très attention. Faut pas s'enflammer.
Donc ce qu'on en retire là-dedans, c'est qu'en fait, il y a le monde des professionnels, il y a le monde des semi-professionnels, et il y a le monde des amateurs.
Et quand je pense que le gouvernement a touché 40 millions des 75% qu'ils ont fait payer à Paris, et cet argent-là, ils auraient pu aussi les aider. Enfin, de quoi je sais pas, il y a de l'argent qui circule, du sport. Paris a payé 40 millions au gouvernement.
Mais à juste titre.
Il faut les aider.
À juste titre, vous avez le monde professionnel aujourd'hui qui est le pire exemple en ce moment, c'est la LFP, hein, la Ligue, avec la Fédération. En ce moment, il y a une guerre fratricide entre Le Grêle et Thierry.
Thierry l'a perdu pour l'instant.
Pour l'instant.
Mais il faut les virer tous les deux, et puis les choses vont revenir à de meilleures.
Mais ça oppose réellement le monde amateur qui, lui, est le premier vecteur et le premier producteur de joueurs professionnels. Alors, si on commence à censurer et à pénaliser les clubs amateurs, on sait très bien que le vivier va totalement s'atténuer. Donc, il y a un compromis à trouver. Je pense que l'homme de la situation à la LFP n'est pas Thierry Aize, parce qu'il a des principes qui favorisent
outre mesure les clubs professionnels, sans considérer que le vivier, justement, est dans les clubs amateurs.
Et c'est dommage, parce que Le Graët, c'est un homme de terrain qui connaît ça, qui a démarré Guingamp dans les divisions d'honneur. Et je comprends pas, quoi. Ça fait des années qu'il est à la tête. C'est quelqu'un qui a l'air d'être très bien, mais dans ce genre de cas,
je pense que c'est un monsieur qui est un peu.
Il a peut-être oublié un peu.
Il s'est pas entendu avec Laurent Blanc, hein. Donc,
ça peut arriver. Mais là, honnêtement, il apprenait pendant des années le foot amateur, faut qu'on les aide.
Et
puis là, on s'aperçoit concrètement dans un cas, parce que là, on est dans le concret. On l'étape, il mérite qu'on se préoccupe.
Mais il choisit ses clubs, monsieur Le Graët. Il prend pas n'importe qui.
Voilà, alors qu'on arrête de nous parler, qu'on va aider les clubs amateurs, machin, qui soient dans l'action. Et puis voilà, il y a quand même. La fédération est quand même assez riche, quand même. Mm-hmm. Non?
Et on peut se poser la question aujourd'hui, parce que Laurent Blanc avait souligné à un moment donné, alors que lui il est ultra professionnel, qu'aujourd'hui on peut quand même se poser la question de la Coupe de la Ligue, tout simplement. Mm-hmm. Parce que aujourd'hui il y aurait la Coupe. Et puis, on est en train de tuer la Coupe de France.
Oui, c'est vrai. On banalise la Coupe de France à travers
le monde. Alors que c'est le cœur du sport amateur et qui a souvent fait de très beaux parcours en Coupe de France et qui a révélé de très grands joueurs. Aujourd'hui, la vraie question se pose, pourquoi Paris va faire à la fin de la saison, je crois, 68 matchs dont au moins 8 matchs de Coupe de la Ligue. C'est complètement stupide, ça pénalise au niveau du parcours européen. Et aujourd'hui, on peut vraiment se poser la question, pourquoi rester arc-bouté sur cette position de la Coupe de la Ligue, alors que c'est l'intérêt même des clubs professionnels de repasser cette Coupe de la Ligue par des tours de Coupe de France.
Ouais. Voilà. Alors justement, la Coupe de France...
Ça pénalise aussi pour le classement.
Hein. Ouais, mais la Coupe de France, donc, eh ben, ça sera donc dans la semaine qui arrive, 8e de finale. Il y aura quand même 3 gros chocs de clubs de Ligue 1. C'est Bordeaux-Nantes, 3 Saint-Etienne et Paris-Saint-Germain-Lyon. Ça veut dire que si la hiérarchie n'est pas bousculée, il restera en quart de finale 7 clubs de Ligue 1 et un club de Ligue 2. Hein, parce que la hiérarchie, elle a quand même été un peu bousculée en 16e. On a vu, par exemple, Bourg-en-Bresse qui est allé gagner à Rennes, 3-1. On a vu Saint-Réunion qui a battu Niort 1-0. On a vu Trélissac qui a fait la grosse surprise en battant Lille au tir au but après un match nul 1-1 après prolongation. Et puis en 32e, on a vu quand même Chambly qui avait écrasé Reims 4-1. On a vu Granville qui avait battu Laval 2-1. Et Sarreguemines qui avait battu Valenciennes 1-0. Donc ça prouve quand même que cette Coupe de France, elle doit exister. Bon, alors après, entre clubs de Ligue 1, on se rappelle que Marseille s'était imposé au tir au but, 3-1, après un 0-0 contre Caen. Et puis Rennes avait gagné devant Nice 2-2 après prolongation, 6-7 au tir au but. Ça, c'était en 32e. Et puis que entre matchs de Ligue 1, donc également, donc Marseille s'était imposé 2-0 devant Montpellier et Bordeaux avait battu Angers 2-1. Donc vraiment, cette Coupe de France, il faut la garder, cette tradition. Il faut aider les clubs amateurs, même si très souvent, quand on arrive au stade des huitièmes, la hiérarchie est un peu moins bousculée.
Oui, alors là, je pense que tu as dû oublier Sarreguemines qui joue. Il restera un match de CFA, je crois. Hein. CFA contre CFA.
Donc il va y avoir. Là, il y aura au moins 2 clubs. Voilà, ça sera le petit poussé alors.
Voilà, mais ça veut dire globalement qu'à partir de demi, à partir de demi, il y a très peu de chances.
Même l'écart. Il
y a très peu de chances qu'il reste des clubs amateurs. Mais de toute façon, la loyauté dans le sport, c'est que sur un match, tout peut se réaliser, même si ça dérange les clubs professionnels.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est fait pour ça. Surtout
si ça les dérange.
Ah, c'est ça. Mais bon, voilà. Non, mais c'est pour dire qu'il y a quand même, même si parfois il y a des années où il y a plus de surprises que d'autres, il y a toujours une hiérarchie qui est bousculée. Et souvent, on voit des clubs de supérieurs hiérarchiquement qui passent ric-rac, très souvent. Bah, comme on l'a vu Nantes ou même Saint-Etienne qui a battu aussi l'AC Ajaccio après prolongation, c'est très souvent ric-rac.
Alors l'avocat du diable vous dira qu'il ne faut pas que Calais se retrouve en phase européenne, par exemple.
Ouais.
Voilà.
C'est pas faux non plus.
C'est l'exception. Saint-Etienne ou je sais plus qui est actuellement. Je sais même plus où on en est. Ouais. C'est pas très grave. Hein. Mm-hmm. Non, c'est pas très grave.
Ouais.
Allez, la pub.
Ils avaient parlé.
Oui, vite fait, parce qu'on passe la pub, Edouard.
Ils avaient parlé d'enlever la Coupe de la Ligue.
Oui, bah, c'est ce qu'il y a dit. Donc, à mon avis.
Pourquoi ils l'enlèvent pas?
Ben, parce qu'il y a des droits télé, il y a trop d'intérêts. Je pense que. Et puis, ça rapporte de l'argent gagné.
Puis Thierry sera chômage.
Allez.
Il n'est pas payé, Thierry. Non, il n'est pas payé.
Oui, il est bénévole.
Il est bénévole.
On y va, la pub.
Le restaurant Amaris à Rambouillet a le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi midi et du lundi au jeudi soir pour vous proposer une nouvelle carte avec ses entrées et son buffet d'hors-d'œuvre à volonté, ses plats et un large choix de desserts chauds ou froids. Le restaurant Amaris, c'est une cuisine maison composée de produits frais. Découvrez également le menu Amaris à 25 euros et le menu Express à 15,50 euros, servi uniquement le midi et hors jour férié. Alors, pour un repas professionnel ou un moment de convivialité, entre amis ou en famille, une seule adresse. Restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 34 rue de la Mairie, Orsemont.
International Auto, 284 RN10 à Coignères, achète comptant et immédiatement votre véhicule de moins de 10 ans avec ou sans contrôle technique. Intéressé pour vendre rapidement votre voiture? Une seule adresse. International Auto, 284 RN10 à Coignères. Téléphone 06 07 65 34 40. 06 07 65 34 40.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, il nous reste une petite minute, juste simplement pour parler du cinquième ballon d'or de Lionel Messi. On l'avait dit, on l'avait annoncé, pas de surprise, hein.
On a dit que c'était tout à fait mérité. C'est vrai que vu sur l'ensemble, si quand même Juliette, je vois qu'elle fait l'amour. Sur l'ensemble de l'année, c'est quand même. C'est sûr qu'on aurait. C'est toujours les deux mêmes, soit Messi, soit Ronaldo.
Il faut limiter à trois ballons d'or et après on passe à d'autres joueurs qui sont capables de
faire. Il faudrait aussi limiter les mandats politiques.
À ce moment-là, il faudrait
des députés, tout ça,
l'un ou l'autre, ce sont des très bons joueurs.
Il y a d'autres derrière qui attendent.
Oui, c'est vrai, mais bon, après, si c'est mérité, il n'y a rien à dire.
On ne peut pas comparer les autres avec les deux, là.
Non, c'est vrai qu'ils sont un ton au-dessus, les deux.
Non.
Très bien, bah, messieurs, merci en tout cas. Je vous retrouve donc début mars, hein, le 6 mars prochain. On aura une grosse actu encore à parler, hein, puisqu'on continuera à parler du championnat, de la Coupe de France. Hein. On va rappeler qu'il y a PSG Lyon, donc notamment mercredi. Et puis des Coupes d'Europe. On aura donc entamé le retour des Coupes d'Europe avec l'Europa League. Et puis surtout, Juliette, donc le Paris Saint-Germain-Chelsea, qui nous attend donc au Parc des Princes.
Voilà. Au Parc des Princes.
Merci à vous, merci Raymond d'être venu.
Merci Philippe.
Il faut revenir. Hein.
Bah, à bientôt.
Hein, bon, à très bientôt hein, pour parler foot dans la région, puis aussi du foot notamment en Bretagne. Voilà, je vais remercier Robin, notre attaquant de pointe, hein, qui a été une nouvelle fois excellent ce matin dans cette émission. Puis je vous laisse avec la suite des programmes. Bon dimanche à toutes et à tous. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Tiens, il y aura le semi-marathon de Bulon la semaine prochaine, puis l'école de cirque sur Limour. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. Et restez-nous fidèles tout au long de la semaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport.